Twitter.
This is Radio Free Europe.
9 minutes in Colombia.
Radio Radio Rosana di Paris.
Madonna Radio Global.
From CNN Radio 7.
Radio Dacia.
O Brasil quer se
juntar. Turquia, foto.
Slava, Russia.
Rebonsoir et bienvenue. Le 18-20 de France Inter continue avec un jour dans le monde. Aujourd'hui au Cap-Vert avec Éric Valmire, en Arabie Saoudite avec Clarence Rodriguez. La fabrique du nouveau monde de Dominique André, portrait de la jeune avocate britannique Catherine Booth. 18h55, c'est l'édito. Arnaud Le Parmentier ce soir, retour sur l'attentat de Peshawar au Pakistan. Mais tout de suite, la Russie.
France Inter, un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
C'était le 27 août dernier, un jour dans le monde était consacré à une brusque et énième montée de tensions entre la Russie et l'Ukraine. Une guerre au sens strict du terme qui réveillait peut-être le souvenir de la guerre froide. Notre invité alors nous invitait à regarder ce qu'elle pensait être le talon d'Achille de Vladimir Poutine et de la Russie. Ce talon d'Achille tient en un mot. L'économie. Bonsoir Marie Mindras.
Bonsoir.
Politologue au CNRS, chercheur au Centre d'études et de recherches internationales de Sciences Po. Vous ne vous étiez pas trompé à la fin du mois d'août dernier. Le rouble s'effondre, le pétrole est au plus bas, les sanctions internationales commencent à faire effet. Vous êtes spécialiste de la Russie et on va donc reprendre la conversation là où on l'a laissée il y a près de 4 mois. Également avec nous Marc Crépin que je salue. Bonsoir Marc.
Bonsoir à tous.
Correspondant de France Inter à Moscou. Alors je commence Marc avec vous, c'était conférence de presse annuelle pour Vladimir Poutine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est dit, notamment sur le plan économique, chose vue, chose entendue ?
Oui, d'abord, si vous voulez, le décor, un record de brièveté. Elle a duré 3h30, ce qui n'est jamais arrivé. Plus de 1200 journalistes, comme chaque année, dans un grand hôtel d'affaires sur les bords de la Moscova. Et puis, Vladimir Poutine est arrivé à peine en retard, il faut le noter. Alors, j'ai envie de caractériser cette intervention par deux points qui caractérisent bien sa prestation. Il a été confus sur l'économie. Et il s'est voulu rassurant. Et comme il était décidé à faire passer des messages positifs, il a poursuivi par une intervention liminaire, un quart d'heure à peu près, pour décrire l'état de la Russie aujourd'hui. Tout va bien. Les fondamentaux de la Russie sont au mieux. L'agriculture n'a jamais fait d'aussi bonnes récoltes. La natalité s'améliore. L'industrie est en bon état. Le climat social est bon, etc. etc. Le chômage est très bas aussi. Enfin bref, il paraissait assez satisfait. J'ajoute qu'il a aussi beaucoup parlé de l'Ukraine, bien entendu, de la Crimée, des critiques incessantes qui visent la Russie. Il a parlé de l'Iran. Mais il était très clair qu'à travers toutes les questions qui lui ont été posées, au-delà de l'économie, il ne cède pas un pouce de terrain sur ses principes et les valeurs qu'il défend, donc au niveau international et sur un plan que j'appellerais géostratégique.
Marc, sortons de l'hôtel de luxe où se tenait la conférence de presse. Allons dans les rues de Russie, dans les rues de Moscou. L'économie russe est en train de partir en vrille.
On peut se poser la question, il est peut-être un peu tôt pour le faire. Pour le moment, il ne s'agit que d'une crise monétaire. Mais elle est le signe d'un malaise beaucoup plus profond qui ne correspond pas du tout à ce que nous a décrit Vladimir Poutine tout à l'heure de façon liminaire. D'ailleurs, au lendemain de cette chute vertigineuse du rouble, il ne conteste pas que ça ne va pas très bien sur le plan financier. Il estime que les causes sont extérieures à la Russie. Il accuse, pour commencer, le prix du pétrole. Ça, tout le monde le savait. Mais en même temps, il a souligné que la crise monétaire allait durer 2 ans. On ignore absolument pourquoi. Il ne l'a pas dit. J'ai interrogé des économistes. Personne ne peut l'expliquer. Parmi les facteurs extérieurs, il estime que les sanctions ne participent que pour 25 à 30% au malheur de l'économie russe aujourd'hui. Là encore, il est assez difficile de poser une telle évaluation. Et puis, ces difficultés, à ses yeux, ne sont que passagères. Il a d'ailleurs attribué un satisfecit à la Banque centrale, au gouvernement. Il ne pouvait pas faire moins, on s'en doute bien. D'une manière générale, il n'a pas répondu aux questions les plus gênantes, qui sont celles du difficile comportement de l'économie sur un plan structurel. Il a quand même évoqué son manque de diversification, mais sans en dire plus. Et puis, évidemment, il n'a pas changé du tout du point de vue sur le reste, je vous le disais, sur l'Ukraine, la Crimée, et sur un plan, disons, géostratégique.
Merci Marc Crépin en direct de Moscou. Voilà donc pour un résumé de cette longue conférence de presse. Marie Mindras, on peut dire que c'est un mélange de déni et de gros bras ?
C'est le déni.
D'abord.
C'est d'abord le déni. Et je trouve que c'est tout sauf rassurant, parce qu'enfin, les faits sont les faits. Et autant le russe ordinaire que les marchés financiers, que nous, les observateurs, nous savons très bien que la crise est grave. Et il n'a absolument pas admis que la crise était grave, et surtout, il n'a proposé aucune solution.
Mais il est dans un rôle de représentation. Dans cette
c'est un show, bien sûr, c'est un grand
voilà,
show.
Dans ce type de contexte, de conférence de presse.
Mais les marchés, ils sont sensibles.
Mais donc, la crise est grave et très grave. C'est ce que vous dites et pensez.
Absolument, parce que la crise, elle ne date pas des derniers jours. C'est une crise structurelle qui est là depuis plusieurs années. Et les sanctions économiques occidentales ajoutées à la forte baisse du prix du pétrole ont tout simplement accéléré un processus de détérioration de l'économie russe. Pourquoi ? C'est une économie de rente, encore beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire que le budget russe, pour sa majeure partie, dépend des revenus d'exportation d'hydrocarbures et d'autres matières premières. Donc, dès que les prix chutent, le budget est amputé. Deuxièmement, comme c'est une économie de rente, c'est donc une économie très clientéliste, corrompue. Certains économistes russes pensent que la crise monétaire qui s'est accélérée ces derniers jours est liée au rôle crucial du monopole d'État pétrolier Rosneft, qui est dirigé par un ami de Poutine, cette Chine, et qu'il fallait absolument sauver parce que Rosneft ne réussit pas à se refinancer et à obtenir des investissements. Donc au fond, ce qu'on voit depuis des années, c'est que la Russie comme État et les entreprises russes ne réussissent pas à trouver les investissements dont ils ont besoin. Et avec, bien entendu, l'Ukraine, et quand même ce qu'on doit appeler une agression russe en Ukraine, la crise de confiance est totale. Alors, on ne trouve personne aujourd'hui qui fasse confiance
à
la Russie.
On va venir à l'Ukraine, Marie Mindras. Encore quelques questions juste sur l'économie. Le mot est redevenu à la mode via la Russie et ses oligarques. Quand une oligarchie traverse une crise économique, elle traverse donc une crise systémique.
Absolument.
Donc, est-ce que vous avez des informations de Moscou disant que les grandes fortunes, les grands industriels, les milieux d'affaires commencent maintenant très sérieusement à s'inquiéter ?
Bien entendu, parce qu'ils sont touchés depuis plusieurs mois. Il y a eu les sanctions ciblées contre plusieurs dizaines de ces personnages, et puis des sanctions contre certains secteurs économiques. Et le plus grave, et que les autorités russes n'avaient absolument pas anticipé, c'est que les sanctions dans le domaine bancaire et financier, c'est-à-dire qui finalement freinent pour les Russes l'accès aux capitaux étrangers. Eh bien, ce problème ne peut absolument pas être résolu sur d'autres marchés financiers, parce qu'on a vu que les marchés asiatiques avaient également perdu confiance. Donc, on voit l'économie russe vraiment en grande difficulté, parce que même si, imaginons que le prix du pétrole remonte un petit peu, imaginons que le rouble cesse de s'effondrer
voilà.
Si vous voulez, tous les fondamentaux que nous venons de décrire, ils restent au rouge. Et il faudra beaucoup de temps pour rétablir la confiance dans le marché russe, dans le gouvernement russe, dont tout le monde comprend bien qu'il est très oligarchique, qu'il est très opaque. Je ne vois pas comment, même avec un petit coup de chance en plus, Vladimir Poutine pourrait sortir de cette ornière.
Dans oligarchie, Marie Mindras, il y a l'idée d'un pouvoir. Est-ce que les oligarques ou les milieux d'affaires russes ont un pouvoir sur Vladimir Poutine ?
Il est un oligarque.
C'est-à-dire que il l'est lui-même.
Bien entendu.
Oui. Il est le chef des oligarques.
Il est chef des oligarques. Il est lui-même très riche. Et en Russie, on ne peut pas distinguer une oligarchie économique d'une oligarchie politique ou administrative. ce sont les mêmes. Je mentionnais Igor Sechin à la tête de Rosneft, entre grosse entreprise pétrolière qui est d'ailleurs en difficulté en ce moment. Il était encore, il n'y a pas très longtemps, dirigeant de l'administration présidentielle de Poutine et avant numéro 2 du gouvernement. Donc, je veux dire, c'est un groupe d'hommes qui sont proches de Poutine, c'est ce qu'on appelle le sérail, et donc ils se tiennent entre eux. Et d'ailleurs, Poutine a répondu à la question aujourd'hui. Un journaliste lui a demandé, est-ce qu'il peut y avoir une révolution de palais ? Et sa réponse a été ben non, parce qu'on n'a pas de palais en Russie. Il ne peut pas répondre à cette question puisque ils se tiennent les uns les autres. Et il me semble que les élites qui sont vraiment gênées, ce sont les deuxième et troisième cercles, c'est-à-dire les entreprises qui ne font pas partie du sérail, qui subissent ces mouvements en étant totalement impuissants et qui savent très bien que ça ne va pas redémarrer.
Et qui ne peuvent pas se coaliser, Marie Mandras.
Qui ne peuvent probablement pas se coaliser, qui ne peuvent pas non plus se réformer, se reconvertir, parce qu'il n'y a pas d'impulsion des pouvoirs publics.
Alors, vous disiez tout à l'heure que Vladimir Poutine, face à la crise très grave, donc vous la décrivez, était dans le déni. Bon, ça ne dure qu'un temps, c'est pour la galerie. On l'a vu, c'est dans le cadre d'une conférence de presse, même si ce sont des messages qui arrivent aussi sur les marchés financiers. On sait aussi que face aux crises, le président russe réagit toujours de manière hétérodoxe. C'est la diagonale du fou. On ne sait pas. Il va toujours plus loin, il relève le gant. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui face à une crise de ce type-là ?
Et ce qui était inquiétant dans son discours d'aujourd'hui, c'est qu'il a dit plusieurs fois « je ne suis pas responsable, je ne suis pas coupable ». Yanie Vinavat. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de préoccupant en Russie, ce n'est pas sa responsabilité et ce n'est même pas la responsabilité du gouvernement. Donc, besoin de bouc émissaire, les États-Unis, les Tchétchènes, les Ukrainiens, etc. Et le fait qu'un dirigeant qui est au pouvoir depuis 15 ans maintenant, qui fait face à une crise que le monde entier reconnaît comme une crise grave et qui continue à dire je ne suis pas responsable, donc ce n'est pas moi de résoudre le problème. Je dois attendre que les Américains et les Européens changent de politique. Je dois attendre que les Ukrainiens acceptent toutes mes conditions. Mais au fond, c'est un aveu de paralysie.
Et de faiblesse ?
Bien sûr.
Bon, enfin, c'est un faible fort quand même, si vous me passez l'expression.
Il ne peut pas et ne veut pas réformer. Donc il ne peut pas préparer l'avenir. Il peut, dans la crise, tenir. Il y a encore des réserves de change, il y a encore des réserves financières et puis surtout une formidable répression politique qui fait que, bien entendu, il peut tenir. Mais le problème, c'est à quel coût ? À quel prix économique ? Quel coût social ? Parce que le niveau de vie est en train de baisser. Les disparités économiques et sociales deviennent de plus en plus grandes. Donc, il y a un mécontentement, c'est certain, au sein de la société, avec très peu de perspectives. Et je dirais que le problème de Poutine, c'est que justement, dans son système autoritaire, il a malheureusement les moyens de tenir encore quelque temps sans s'atteler vraiment à la tâche de réformer.
Est-ce que la population, est-ce que les Russes sont aujourd'hui très inquiets de cette situation ? Est-ce qu'ils sont sensibles au discours qui consiste à dire « nous contre les autres » ou « les autres contre nous, nous sommes seuls acculés avec les Occidentaux qui ont toujours voulu nuire à la puissance russe, etc. » Tout ce discours patriotique, nationaliste de Vladimir Poutine, il résonne dans l'oreille des Russes ou pas ?
Ce n'est pas aisé de répondre à votre question. C'est la question presque la plus importante, hein, comment à la fois la société et puis les élites au sens large réagissent. D'une certaine manière, on ne sait plus, parce que le pays est devenu trop opaque, les sondages d'opinion ne sont plus fiables, les gens vivent dans des émotions négatives, la propagande est très négative, beaucoup de Russes ressentent cette peur, peur du lendemain, peur des étrangers, peur de la guerre. Tous les soirs à la télévision, on leur parle de la guerre, mais comme s'il y avait des guerres partout. Alors, vous dire exactement comment ce Russe, qui est quand même otage de cette propagande et de ce système, comment il se fait son opinion, c'est difficile. Moi, ce que je dirais simplement, c'est que si à un moment le régime change, les Russes oublieront assez vite Vladimir Poutine. C'est-à-dire que le rapport à Poutine n'est pas un rapport très,
fusionnel,
très affectif,
charismatique.
Fusionnel. C'est plutôt le rapport à un dirigeant autoritaire qui, pendant des années, leur a assuré un meilleur niveau de vie, qui aujourd'hui comprennent absolument plus ce qui se passe et probablement ressentent l'incapacité de la direction actuelle, qui n'a pas changé depuis 15 ans, de leur redonner ce qui était quand même important pour eux ces dernières années, la possibilité de vivre mieux, de consommer.
Oui, il y a eu un troc d'une certaine manière.
Oui, pendant une dizaine d'années, le contrat social.
De l'économie qui marche bien.
Et moins de liberté.
Et moins de liberté. Et c'est ça ce qui est en train de se casser aujourd'hui avec l'économie qui s'effondre. Bon, et comment, Marina...
Et la Crimée ne suffit pas à équilibrer.
On arrive maintenant à d'autres sujets. Déjà, l'Ukraine, comment elle entre en ligne de compte dans le paysage qu'on vient d'esquisser, qui est un paysage de crise économique profonde et de faiblesse du pouvoir, en tout cas d'aveu d'incapacité à agir. Comment est-ce que cet ingrédient-là, il faut l'analyser maintenant ?
L'Ukraine a été le grand révélateur. C'est-à-dire ce que nous tous, les chercheurs, les spécialistes, nous savions sur les fragilités et les extrémités du système Poutine, la répression, le clientélisme, on pouvait ne pas le voir. Avec l'Ukraine, c'est-à-dire à la fois la révolte populaire de Maïdan, la chute d'un gouvernement corrompu, et la mise en place de nouvelles institutions démocratiques, la reconnaissance de l'Europe, le soutien des pays occidentaux et de la plupart des États de la communauté internationale, ça a d'abord eu un effet de révélateur sur tout ce que n'était pas la Russie. Donc un effet de retard politique, économique, culturel de la Russie par rapport à l'Ukraine. Et ça, pour Vladimir Poutine, c'est insupportable. Parce que les Ukrainiens sont moins bien que les Russes, devraient tout simplement accepter la domination russe. Donc l'Ukraine a eu ce rôle de révélateur.
Oui, un miroir qui a renvoyé une image terrible à la Russie.
Et puis enfin, le grand déclic, c'est que les pays occidentaux ont enfin tenu un discours clair face aux autorités russes. C'était « vous ne pouvez pas faire absolument ce que vous voulez ». En Ukraine, parce que tout simplement, l'Ukraine, c'est un grand pays qui est sur le continent européen et nous allons soutenir l'Ukraine.
Mais il semble y avoir tout de même, y compris au sein des pays dont vous venez de parler, qui ont dit stop, ça n'est pas possible, c'est en Europe, c'est un grand pays. Il semble y avoir, Marie Mindras, une inquiétude très grande quant à l'état économique de la Russie, et on y revient.
Bien sûr, oui.
Et une inquiétude très grande sur l'opportunité de continuer, du coup, à avoir des sanctions très dures, même si elles n'ont pas brisé l'économie russe, mais elles contribuent à l'affaiblir encore. Donc, est-ce que le front va tenir ?
Comprenons bien que les sanctions ont accéléré un processus qui était déjà enclenché de détérioration des bases économiques de la Russie.
Ça ne fait jamais de bien, des sanctions
économiques. Bien entendu, si ensuite tous les opérateurs russes ne peuvent plus trouver d'argent, si personne ne veut plus investir, si les revenus du pétrole et du gaz naturel baissent, évidemment. Simplement, même si aujourd'hui on décidait de lever quelques-unes des sanctions, ça ne résoudrait rien. Parce que la crise de confiance... elle est là, elle est criante et il faudrait vraiment un changement de politique gouvernementale en Russie pour petit à petit recréer la confiance. Donc ceux qui disent il faut aider Poutine, nous serons responsables de la crise monétaire de la Russie si le rouble s'effondre, etc. Il faut leur répondre, c'est faux. Ce sont d'abord les autorités russes qui sont responsables de l'état de leurs finances et de leur monnaie.
Et une fois qu'on a dit ça, Marie Mindras, qu'est-ce qu'on a dit et qu'est-ce qu'on peut faire ?
Je crois qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire discuter tous les jours avec Vladimir Poutine et un certain nombre d'autres responsables. Tous les jours, l'un de nos gouvernants européens ou américains est au téléphone avec Vladimir Poutine. Ne jamais lâcher, toujours maintenir le lien, toujours proposer des solutions et faire que petit à petit, il recule sur le front ukrainien, et qu'il accepte chez lui de changer un petit peu ses méthodes. Parce que nous avons été beaucoup trop indulgents sur la question des droits de l'homme, des libertés fondamentales et également d'ailleurs des libertés économiques. Parce que dans le clientélisme et la corruption, ce n'est pas juste les droits de l'homme, le droit de manifester. C'était aussi une incapacité pour beaucoup d'acteurs économiques en Russie de monter une entreprise, de défendre leur travail. Donc je pense qu'il faut donc travailler avec les élites alternatives, c'est-à-dire celles qui sont déjà actives en Russie, qui sont sous ce couvercle autoritaire, mais qui n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir rester dans leur pays et travailler. Donc il ne faut pas les oublier.
Et quant à l'Ukraine, dernière question, Marie Mindras, vous dites qu'il faut que Vladimir Poutine accepte de reculer en Ukraine. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a plutôt tout intérêt au statu quo, même s'il est bancal, et à mettre sous un dôme de glace la situation aujourd'hui telle qu'elle est?
Pour l'instant, c'est plutôt un dôme de feu, que de glace, parce que bon, on a un cessez-le-feu fragile. Il y a eu quand même beaucoup de victimes ces derniers mois. La ville de Donetsk a été quand même bombardée. Enfin, c'est tout ça pour rien, hein, parce que les populations ne demandaient absolument pas un conflit soutenu par la Russie. Donc, je dirais oui, Poutine, il l'a très bien redit aujourd'hui. Il veut figer l'Ukraine dans ses problèmes territoriaux, dans ses problèmes économiques, financiers, l'empêcher de se rapprocher de l'Europe. Mais il n'y réussira pas. Donc, ce qui est inquiétant, c'est de voir qu'il ne peut pas s'adapter à la situation. C'est-à-dire qu'au fond, il a cru qu'il avait gagné. En réalité, il est plutôt en train de perdre maintenant. Il faudrait qu'il ait justement cette capacité de s'adapter pour que la défaite ne devienne pas totale.
Merci Marie Mindras, CNRS, série Sciences Po, spécialiste de la Russie. Merci d'avoir poursuivi la conversation avec nous au micro de France Inter. Merci également à Marc Crépin, le correspondant de Radio France à Moscou. 18h37, TV on the radio. Happy idiot, ça doit vouloir dire idiot utile ça. Happy Idiot, TV on the Radio. Vous écoutez France Inter, 18h40, un jour dans le monde.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde, sur France Inter.
Et direction maintenant l'Arabie Saoudite, notre correspondante est de passage à Paris et dans le studio d'un jour dans le monde. Bonsoir Clarence Rodriguez.
Bonsoir Nicolas.
On a suivi grâce à vous Clarence ce mouvement de femmes saoudiennes qui ont délibérément choisi de braver la loi qui leur interdit de conduire une voiture dans leur pays. Résultat, il y en a deux maintenant qui sont en prison.
Absolument, il s'agit de Loujain et Meissa qui ont été arrêtées donc le 30 novembre, incarcérées le 1er décembre, dans des conditions qui demeurent quand même flou. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elles ont été arrêtées à la frontière entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Loujain a été arrêtée alors qu'elle possède, si vous voulez, un permis de conduire. Et elle a voulu être soutenue par son amie Meissa, qui est une journaliste reconnue, qui vit également aux Émirats Arabes Unis. Et là, donc, si vous voulez, le lendemain, donc le 1er décembre, elles ont été incarcérées. Elles ont été incarcérées durant 25 jours. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, elles ont purgé 17 jours. Il leur reste encore 9 jours. Et les parents sont vraiment dans... On ne sait pas exactement dans quelles conditions.
La prison, Clara, c'est nouveau ça.
Oui, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs... Il faut reprendre. En mai 2011, on est en plein cœur du mouvement de printemps arabe. Il y a eu le mouvement Woman to Drive. Manal al-Sharif, icône de ce mouvement, a été arrêtée, incarcérée 9 jours. Oui. Gracie ensuite. Mais après ce mouvement...
Voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est on tapait sur les doigts, rappel au règlement.
C'est-à-dire qu'elle signe, enfin tout au moins pas elle, mais leur tuteur signait un papier en disant oh ben, écoutez, non, ma femme ou ma fille ne recommenceront plus, etc. Voilà. On en était resté là. Il y avait un vent d'espoir quelque part, si vous voulez.
Mais alors, pourquoi la prison à nouveau? Parce que vous citiez une crise là, en 2011. Est-ce que l'Arabie Saoudite est en crise? Et quand elle est en crise, est-ce qu'elle se tourne contre les femmes?
J'ai presque envie de dire, Nicolas, que chaque fois que l'Arabie Saoudite se sent menacée ou elle est inquiète, comme c'est le cas en ce moment, avec notamment cette menace des combattants de l'État islamique, ces djihadistes qui reviennent d'Irak, qui reviennent de Syrie, qui reviennent en Arabie Saoudite pour créer le chaos, si vous voulez, eh bien l'Arabie Saoudite essaie de verrouiller un petit peu. Et alors, force est de constater...
Que ça se fait sur le dos des femmes.
Exactement. Ce sont elles qui en pâtissent. Ça a été le cas, rappelez-vous également, en 1990. 47 femmes qui ont été arrêtées. C'était pendant la guerre du Golfe. Là, c'est pareil. Il y avait cette inquiétude. 2011, 2014, 2013 également. Octobre 2013. Lorsque ces femmes ont voulu effectivement donc réclamer le droit de conduire, eh bien, vous avez les autorités saoudiennes qui ont envoyé au tuteur un message sur leur SMS pour dire « Non, non, attention, si vous bravez l'interdiction de conduire, il va vous arriver des misères. »
Alors, complexifions les choses un peu plus encore. Le 23 décembre prochain, dans quelques jours donc, entre en vigueur une loi qui porte sur le droit des enfants et des femmes. C'est bien ça?
Absolument. Et ça, si vous voulez, c'est quand même un grand... c'est historique. C'est une loi...
Il y a quoi dans ce texte?
Eh bien, en fait, si vous voulez, il faut remonter à la jeunesse. C'est-à-dire qu'en avril 2013, il y a la première campagne contre les violences faites aux femmes et aux enfants qui avait été lancée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait fait le tour du monde. Cette photo de cette Saoudienne portant un niqab, avec arborant un œil au beurre noir, il y avait même un message. Certaines choses ne peuvent pas être couvertes. Combattons ensemble les violences faites aux femmes. Et là, si vous voulez, un an et demi après, eh bien, il y a une loi qui est appliquée pour protéger donc ces femmes, mais également donc ces enfants. Alors, on ne connaît pas, si vous voulez, le contenu exact donc de cette loi, mais ce qui est important, et ça fait partie, j'ai envie de dire, cette politique des petits pas en Arabie Saoudite, des choses qui avancent, si vous voulez, et notamment cette loi en fait partie.
Ça, c'est donc une bonne chose, d'après vous?
Oui, c'est une bonne chose. Comme, si vous voulez, quand je parlais de la politique des petits pas, il y a cette loi qui en fait partie. Il y a toutes ces femmes qui sont de plus en plus nombreuses à travailler, il faut le savoir, depuis 3 ans. Elles peuvent être donc ingénieures, elles peuvent être directrices de marketing, elles peuvent être également chefs de chantier.
Ah
oui,
bon
oui, moi ce sont des chefs de chantier.
Ce sont des femmes que vous rencontrez là-bas en Arabie
Absolument.
Saoudite.
Absolument. Et il y a pas longtemps, il y a un mois, pour les besoins d'un documentaire que l'on est en train de préparer avec Bernard Cazepatte pour France 5, eh bien nous avons rencontré des femmes atypiques. Et c'est vrai que, alors on parle effectivement de cette interdiction de conduire, mais à côté, il se passe des choses, si vous voulez. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu cette révolution ou cette évolution silencieuse systématiquement. Donc ça, il faut quand même aussi ne pas l'oublier.
J'ai l'impression à vous entendre, et ce sera ma dernière question, Clarence Rodriguez, que ça se joue presque femme par femme. La chef de chantier, l'ingénieur, la directrice de marketing, que ce sont des combats localisés à l'échelle des individus qui peut-être un jour s'agrégeront.
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et grâce aussi à la confiance que portent sur elle ces hommes. N'oublions pas qu'elle ne ferait rien s'il n'y avait pas des hommes compréhensifs et qui les soutiendraient. Et là, c'est effectivement, vous avez raison, c'est individuel, mais ça va devenir collectif. Et ça, on le voit. Vous avez ces femmes aussi qui vendent de la lingerie, des produits cosmétiques. Il y a eu une fatwa en 2009 et en 2012, 3 ans après, eh bien, ce sont des femmes que l'on voit maintenant dans les magasins. Donc c'est petit à petit, c'est-à-dire que les choses se font progressivement. Mmh. C'est-à-dire que c'est le roi Abdallah qui distille pour que la population s'imprègne de ces mouvements, de ces réformes.
Et il y aura peut-être un jour un effet de masse et de levier, en tout cas, on le souhaite. Merci Clarence Rodriguez, je rappelle que vous êtes la correspondante de Radio France en Arabie Saoudite. L'heure de partout ailleurs. Bonsoir Éric Valmire.
Bonsoir Nicolas.
Une éruption volcanique inattendue a rayé de la carte plusieurs villages du Nil du Cap-Vert.
La lave du volcan Pico do Fogo au Cap-Vert en éruption depuis le 23 novembre a déjà rasé deux villages. Le Cap-Vert, pour mémoire, est un archipel volcanique composé de 10 îles, dont 9 sont habitées, dans l'Atlantique, à environ 500 km à l'ouest du Sénégal, au large du Sénégal en fait. Le volcan Pico do Fogo, 3000 mètres d'altitude, situé sur l'île de Fogo dans le sud de l'archipel, est entré donc en éruption il y a 3 semaines. Il y a eu une accalmie de 4 jours fin de semaine dernière. Ça va un peu mieux maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'éruption, mais la lave continue de progresser et à tout détruire sur son passage. Bordela et Bangaïra sont deux villages rayés de la carte. Avant l'éruption, ils totalisaient à eux deux plus de 1700 habitants qui ont été déplacés vers San Felipe, la capitale de l'île. 70% des habitations ont disparu en l'espace d'à peine 12 heures. Alors évidemment, sur place, il y avait des gens qui ont enregistré. C'est impressionnant parce que autant c'est impressionnant visuellement, mais aussi d'un point de vue sonore, c'est impressionnant. Ça, c'est le grondement qu'il y a sur l'île avant même l'éruption. Et ça va durer comme ça pendant plusieurs heures. On peut monter un peu d'ailleurs. Et puis d'un seul coup, vous allez entendre l'explosion qui va survenir. Là, il faut savoir qu'on est à l'autre bout de l'île, on n'est pas vraiment sur le volcan. Et sur le volcan, il y avait des sismologues qui avaient été alertés par l'activité qui commençait à commencer. Et sur le volcan, c'est encore plus fort. Alors évidemment, ça fait un vent avec des particules. Face à cette menace, les autorités ont rapidement pris des mesures, évacuant les habitants de Chas Dal Chalderas qui ont été accueillis dans des abris de secours. Ces dernières heures, les habitants de Fonsaco sont prêts à être évacués et la coulée de lave progresse 60 mètres à l'heure. Il faut imaginer qu'on assiste impuissant à cette lave qui progresse tout doucement. On regarde et on voit la lave s'emparer doucement des maisons et boum, tout détruire. Écoutez le bruit que ça fait d'ailleurs. Ça, c'est la lave qui avance tout doucement, centimètre par centimètre, mètre par mètre. Après son passage, c'est une épaisse couche de cendre qui recouvre la zone. Les autorités redoutent que la coulée progresse vers Montevelia, l'importante réserve forestière de l'île, qui partirait en fumée dans un gigantesque incendie. C'est toute l'économie locale, toute une vie que le volcan a emportée en l'espace de 22 jours. Plus d'un siècle et demi d'histoire qui a littéralement été effacée sur l'île de Fogo. Le préjudice économique dépasse les 50 millions d'euros. Les dégâts matériels sont énormes. Toutes les infrastructures ont été rasées. Maisons, citernes, écoles, églises, pensions, domaines, agricoles. On peut toujours dire que ces gens étaient fou de vivre sur une île volcan, comme on peut le faire aussi à Stromboli, au nord de la Sicile. Mais quand aucune éruption n'est intervenue depuis 70 ans, qu'on a pris l'habitude de vivre avec lui, Nicolas, la relation est quasi mystique. On vit avec un ami, oui, un ami protecteur qui favorise un climat propice à l'agriculture, à l'élevage. Sauf que voilà, l'ami vient de trahir, tout est détruit. Pire, la lave et les cendres ont remodelé la configuration de l'île. Il faudra reconstruire, mais ailleurs, autrement, sur d'autres emplacements. Et les sols sont inexploitables pour plusieurs saisons. Un appel à l'aide a été lancé à la communauté internationale.
Absolument impressionnant. Merci Éric Valmire. Il est 18h50. Sur France Inter. Et la virgule ne part pas si elle va partir. Et c'est la fabrique du Nouveau Monde qui souffle ce soir les 35 bougies de la Convention mondiale contre les discriminations faites aux femmes. Bonsoir Dominique André.
Nicolas.
Et vous nous parlez aujourd'hui d'une jeune avocate du barreau de Londres.
Oui, elle s'appelle Catherine Booth. Le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes l'a toujours accompagnée, bien avant qu'elle ne décide de se lancer dans cette grande bataille pour les droits des femmes.
Moi, j'ai vraiment grandi avec le sentiment que les femmes étaient les égales des hommes. Et c'est, je pense que c'est grâce à mes parents et notamment mon père qui m'avait toujours inculqué le sentiment que je pouvais faire tout ce que j'avais envie de faire, qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce que je réalise toutes mes envies, que j'étais quelqu'un de capable et que si je m'appliquais, je pouvais arriver à mes fins. Et je me souviens d'un slogan qu'on avait dans la maison sur une affiche. Bon, c'était les années 80 avec une femme avec la poignée qui est, où c'était marqué « Women can do it », les femmes peuvent. Et c'était quelque chose qu'on se répétait dans la maison, voilà, « Women can do it ». Et j'ai grandi avec ça. « Walk with you through the darkness, onto the light, onto the light. » En fait, le 18 décembre, on marque le 35e anniversaire de la Convention sur les droits des femmes, la Convention internationale qui est la référence sur les droits des femmes. C'était adopté en 1979. Et aujourd'hui, on dit souvent, est-ce que si on réunissait les mêmes personnes autour d'une table aujourd'hui, est-ce qu'on arriverait à la même convention? Une convention avec autant de force qui est aussi claire sur le principe de l'égalité des sexes. Et c'est pas sûr. Et c'est ça qui m'inquiète.
Alors, dans cette fameuse convention, les États signataires ont tout prévu pour l'égalité entre les sexes, la représentation des femmes dans les instances politiques, le droit à l'avortement, l'interdiction des mutilations génétiques, un âge minimum au mariage. Aujourd'hui, Catherine Booth préfère plaider au sein de la FIDH pour tenter d'influencer les politiques.
En fait, le 18 décembre, on marque le 35e anniversaire de la Convention sur les droits des femmes, la Convention internationale qui est la référence sur les droits des femmes. C'était adopté en 1979. Et aujourd'hui, on dit souvent, est-ce que si on réunissait les mêmes personnes autour d'une table aujourd'hui, est-ce qu'on arriverait à la même convention? Une convention avec autant de force qui est aussi claire sur le principe de l'égalité des sexes. Et c'est pas sûr. Et c'est ça qui m'inquiète.
Et on est, Dominique André, dans une période critique pour le droit des femmes. On en parlait avec Clarence Rodriguez il y a quelques minutes à l'instant sur l'Arabie Saoudite.
Tout à fait, c'est ce qui ressort vraiment de ce rapport 2014. Beaucoup trop de combats restent à mener ici en Occident et bien sûr encore plus dans les pays arabes. On a parlé de l'Arabie Saoudite où les femmes n'ont toujours pas le droit de conduire. Au nom de quoi d'ailleurs? Les pays arabes où Catherine Booth suit l'éveil des femmes qui étaient, on s'en souvient bien, au premier rang des révolutions.
Là, je reviens d'une rencontre en Tunisie où j'ai rencontré des femmes algériennes, égyptiennes, libyennes, tunisiennes qui, elles, ne baissent pas les bras. Ce sont ces femmes-là qui me donnent l'optimisme, même si les avancées sont très, très lentes. Et le plus inquiétant, c'est qu'on ne va pas toujours, dans tous les pays, dans le sens de la progression. Il va falloir beaucoup de solidarité. J'espère que je vais y apporter ma petite pierre aussi.
Voilà, et on peut retrouver donc tout ce livret sur les 35 ans de cette Convention mondiale sur les droits des femmes, référence internationale sur notre site franceinter.fr.
Merci Dominique André. Il est 18h54.
Un jour dans le monde.
Alors, la Chine, c'est fini. Ah bon, vous voyez, la chronique est très socialiste. C'est incompréhensible. Vous voilà informé par le monde, Nicolas.
Sur France Inter.
L'édito d'Arnaud Leparmentier. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Directeur adjoint de la rédaction du Monde. Retour sur le carnage dans l'école de Peshawar, au Pakistan, c'était avant-hier.
Oui, hommage aux femmes et aux enfants martyrisés par l'obscurantisme. Alors on va quand même commencer par un clin d'œil dans cette chronique grave. Les plus anciens s'en souviennent. Il avait appelé à venir en aide à un peuple qui se révoltait contre un régime, je cite, féodal, tyrannique, arriéré. Il avait dénoncé, je cite, un pays où existe encore le droit de cuissage. C'était à l'hiver 1980. Georges Marchais, leader du Parti communiste français parti en goguette à Moscou, avait ainsi justifié l'intervention soviétique en Afghanistan. À l'époque, un régime pro-soviétique s'était installé qui imposait alphabétisation, droits des femmes, réformes agraires et les formations conservatrices afghanes furent contrariées et fomentèrent un coup d'État qui déclenchèrent l'invasion soviétique. L'obscurantisme en Afghanistan, on n'en est pas sorti. 35 ans après l'invasion soviétique, 14 ans après les attentats du 11 septembre, les talibans menacent de prendre le pays. Et leurs comparses du Pakistan ont commis un attentat odieux en assassinant plus d'une centaine d'enfants dans une école militaire de Peshawar pour se venger des attaques de l'armée pakistanaise. Commençons par trois remarques sur Peshawar. D'abord, le terrorisme islamique tue, pour commencer, des musulmans. Deuxièmement, ce terrorisme vise certes des militaires qui les combattent, mais il vise des écoles. Le fanatisme prospère sur l'obscurantisme, ce sont des lieux d'apprentissage et de savoir qui ont été visés. Le drame de Peshawar, surtout, n'est pas isolé. Il vaut aussi pour les lycéennes du Nigeria, enlevées de force de leur établissement, mariées et voilées aux terroristes de Boko Haram. Dimanche encore, 180 femmes et enfants auraient été enlevés, selon l'ONG Human Rights Watch, pour servir d'esclaves sexuels aux militants de Boko Haram. Il vaut aussi pour les 150 femmes qui, selon une agence turque, auraient été assassinées par le prétendu État islamique pour avoir refusé de se marier avec des djihadistes. Cet État djihadiste a publié un petit guide qui répond à 27 questions et précise à quelles conditions une femme peut être réduite en esclavage, quand il faut la battre, quand il faut la violer. Je vous invite à lire le reportage poignant d'Annick Cogent qui raconte, je cite, les noces barbares des 4000 femmes et filles yézidis réduites en esclavage vendues à l'État islamique, qui est paru dans Le Monde le 15 décembre. Pour les femmes, pour les enfants, donc sans cesse, il faut se battre. La jeune prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai, l'a expérimenté dans sa chair parce qu'elle voulait que les filles pakistanaises puissent aller librement à l'école, l'avait écrit sur un blog. Elle fut attaquée dans un bus scolaire, grièvement blessée par un coup de feu à la tête tiré par un taliban. Après le crime de Peshawar, elle a immédiatement lancé un appel vidéo. Le cœur brisé, dit-elle, elle invite la communauté internationale, les Pakistanais, à s'unir contre le terrorisme et à offrir une éducation de qualité en toute sécurité à tous les enfants. Comme le rappelle dans La Croix, Dominique Quignot, Malala avait déclaré à l'Assemblée des jeunes de l'ONU « Prenons nos cahiers et nos crayons, ce sont nos armes les plus puissantes ». Malala a raison, mais elle n'a jamais pu retourner pour l'instant au Pakistan.
Merci Arnaud Leparmentier. Il est 18h57. Bonsoir Hélène Jouan.
Bonsoir Nicolas.
Bienvenue dans ce studio. Le téléphone sonne tout à l'heure. Sur quoi ?
On va parler des ZEP ou plutôt des REP, en tout cas d'éducation prioritaire. Vous savez que la ministre de l'Éducation a dévoilé hier la nouvelle carte de ces collèges, de ces écoles qui accueillent des enfants en difficulté sociale, économique, culturelle ou géographique. Le problème, c'est que cette nouvelle carte, eh bien, elle ne fait pas que des heureux parce qu'il y a évidemment des entrants et là, bingo pour eux, mais il y a aussi des sortants. Et ces sortants, eh bien, se demandent comment ils vont pouvoir à terme continuer à faire avec moins de moyens et à lutter contre les inégalités sociales qui perdurent dans ces écoles. Alors comment cette carte a-t-elle été dessinée ? Qu'est-ce que ça va changer à la rentrée 2015 pour ces gens et ces écoliers, ces enseignants qui sont ou qui ne sont pas en réseau d'éducation prioritaire ? Eh bien j'attends dès maintenant vos questions au 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux franceinter.fr, Facebook ou sur Twitter avec le hashtag Telson.
Merci Hélène Jouan, rendez-vous à 19h20. Deux mots de programme pour demain sur France Inter, 13h30, 14h. La marche de l'histoire, Jean Lebrun dans la série Témoin consacre son émission à la constitution de la 5e République. C'est Jean-Louis Debray qui sera son invité. Et puis un dernier mot pour vous dire que c'est Éric Valmire qui présentera demain et pour les jours qui viennent l'émission Un jour dans le monde à 18h15 sur France Inter.